Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 6. Petit Pierre travaillait chez Zacharie, où il se montrait docile et fort exact. Situé derrière l'auberge, dans le jardin, l'atelier ouvrait sur la route que Petit Pierre n'avait qu'à traverser pour rentrer chez lui. Le père Zacharie paraissait rarement à l'atelier. Il faisait la partie dans sa buvette, fumait des pipes ou lisait la feuille. Deux ouvriers suffisaient à la fabrication des caisses pour les usines. Mais si un client le venait chercher d'urgence, il criait qu'il était débordé de travail et se rendait une heure plus tard, entraînant ses savates, le dos courbé sous une grande boîte dans quoi se perdaient un marteau et trois pointes. Maintenant, c'était Petit Pierre qui portait la boîte, de même qu'il allait chercher le tabac des ouvriers par cornet à deux sous et cassait le bois de la patronne pour le feu. Cependant, il apprit à scier et à polir des planches. Les Bernards avaient vieilli tout d'un coup. Alourdi, la femme était devenue plus lente, avare de ses gestes, et la douleur avait effacé son rire d'enfant sur son visage. L'homme se voûtait, et, au mépris de l'aspect militaire de sa face, toujours nette et bien rasée, il laissait croître sa barbe au hasard. Un moment, on pensa même qu'il allait boire, mais il se terra dans sa maison pour ne plus sortir. Ils demeuraient tous les deux, assis des journées entières, l'un en face de l'autre, sans courage et sans goût à vivre. Ils ne parlaient pas et regardaient par la fenêtre le ciel tumultueux d'automne où fuyaient les nuages en déroute. Dans le foyer, deux triques fumaient sur la cendre. Le grand vent d'ouest ronflait dans la toiture et le bruit mauvais de la mer qui ne décessera jusqu'au printemps leur résonnait tristement dans le cœur. Ils ne se réveillaient, pour ainsi dire, que le soir, à la rentrée de Petit Pierre. La mère s'affairait un peu, soufflait le feu, mettait la soupe et disposait trois assiettes et une miche sur la table autour de la bougie. Le père s'enquérait du travail, des nouvelles. Mais à l'atelier, on montait toujours des caisses et il n'y avait pas de nouvelles. Les jours se suivaient indéfiniment semblables. La vie coulait monotone et inquiète en raison de l'humeur de la mer. La pêche s'épuisait, les usines chômaient à demi. On prenait le pain à la coche chez le boulanger et Dieu sait quand on paierait. Les bouchers de la ville avaient cessé de venir. Parfois, un événement traversait comme un éclair cette uniformité grise, un naufrage, un suicide, un meurtre. Puis le triste cours reprenait, et les hommes, distraits un moment, recommençaient à traîner le boulet de leur misère. Bernard avait ajusté un petit cadre en bois pour placer le portrait d'Eugène sur la cheminée, en compagnie des aînés morts. Chaque matin, la mère l'essuyait, en faisant le ménage, et quelquefois il lui arrivait de murmurer « Si on le revoyait tout de même, il serait ben changé. » Bernard haussait les épaules, mais ne la contredisait pas. Une braise d'espoir qu'ils auraient honte de révéler couvait au fond d'eux-mêmes. Les gens de la mer savent bien qu'après de longues années, des naufragés sortent parfois de la mort, avec un visage inconnu. Petit Pierre, lui, n'avait pas d'espoir, étant trop jeune pour fixer sa pensée sur un autre objet que lui-même, comme font les gens d'âge, qui se contentent à voir vivre ceux qu'ils aiment. Mais, touché par le chagrin tenace des vieux, il s'était soumis de bon cœur en se détournant des barques pour apprendre la menuiserie. Le village n'en revenait pas encore. Chacun savait ses exploits à bord du laissez-les-dire et les victoires sur Olichon. On disait déjà de lui, ça fera un rude marin. » Et voilà que, tout soudain, sans prévenir, il lâchait la marine pour la varlope et ne regardait plus les frères. Froissé, comme d'une injure, Perchet traita petit Pierre de renégat en regrettant « un gars qui était si capable et si fort déjà ». Petit Pierre se dérobait à ses propos qui lui donnaient de la tristesse et de la honte. Mais quand on lui reprochait trop directement l'abandon des barques, qu'il faut du courage et de la force pour mener, il s'excusait. « Pour la mer, vous savez ?» Les autres hochaient la tête, sans approuver, ou bien ajoutaient, presque méprisant, « ça, c'est une affaire !» Et on riait autour de lui, parce qu'il n'y avait que les femmes à le défendre. L'hiver fut rude, à la satisfaction de Clémotte, qui en avait prédit la rigueur dès la mi-septembre, en voyant les abeilles s'enfermer précocement dans les ruches. Au village, on se coucha tôt pour ménager la chandelle et le feu, avec seulement une soupe chaude dans l'estomac. Le bois devint rare et cher. On brûla des bousses de vache, séchées pendant l'été, en se serrant plus près sous le manteau de la cheminée où tremblaient les vieux recroquevillés. Aux embellis, ils descendaient sur le quai consulter le baromètre. Tonnerre seul ne paraissait plus et hivernait au fond de sa case comme une marmotte. Petit Pierre l'allait voir quand il restait trop longtemps sans sortir et lui portait une écuellée de panade bouillante qu'il avalait gloutonnement en arrosant sa barbe. Malgré le chômage, Petit Pierre fut assidu à l'atelier jusqu'au printemps, dont l'éveil ne le détourna même pas. Il semblait vraiment avoir oublié la mer, qui reverdissait doucement comme une prairie au soleil d'avril. Il venait quotidiennement ne rien faire, auprès des établis avec les deux compagnons, Clovis et Firmin. Petit et brun, chevelu, crépu, Clovis remplissait le hangar sonore de romances savonneuses que des filles admiratives écoutaient à la porte. Épanoui du ventre au front, Firmin exhibait une bedaine roulée dans 4 mètres de flanelle rouge à cause des coliques. Tout de même, un menu fait émut Petit Pierre. Le retour au village d'un gars à ce vieil alcoolique de Piron qui s'était pendu voilà 2 ans dans une crise. On l'appelle cul cassé parce qu'il boite. On ne lui sait pas d'autre prénom. Il avait traîné dans les barques autrefois et fait tous les métiers, jusqu'à mendier pour ne pas mourir de faim. Des personnes charitables lui ayant enseigné la cordonnerie, qui est la profession des cagneux par excellence, il s'était placé en ville. On n'entendit plus parler de lui. On l'oublia. Et soudain, il reparaissait, loqueteux et pâli, s'arrêtait à la porte de la masure familiale où vivaient encore sa mère et sa sœur, la Louise, avec l'enfant que lui fit le défunt Coëte. Elles le reconnurent à sa claudication et l'accueillirent sans enthousiasme, en considérant sa misère. Mais Cucassé les rassura en montrant 3 pièces d'or dans le coin d'un mouchoir. Puis il déposa son ballot et descendit chez Zacharie, conter ses aventures. C'est là que Petit Pierre l'entendit le soir, quand, échauffé par les libations, il jurait et frappait la table en répétant « Un gars, Piron, un pêcheur, faire un niaf. Non mais quoi, y a donc plus de mer ?» Il était revenu pour naviguer, malgré sa patte folle, parce que son grand-père, son père avait été marin, parce que ses frères étaient marins, et que son métier de cordonnier lui faisait honte, comme une désertion. Il était revenu par instinct, parce que son sang roule dans ses artères du même rythme que les océans, qu'il a besoin de la mer pour vivre comme d'air pour respirer, et qu'il aime mieux crever de faim et risquer sa peau sur une barque que d'engraisser dans la sécurité monotone des villes. La mer épouvanta les hommes, sans doute, au début des âges. Mais, l'ayant affrontée, ils trouvèrent en elle une source inépuisable de profit. Et les générations côtières s'adaptèrent de siècle en siècle à la vie maritime, qui est une lutte perpétuelle. Elle est aventureuse, héroïque, et chaque voyage heureux, chaque pêche fructueuse est une victoire. Et il y a, dans chaque village, des rivalités pour la suprématie de la mer. Existence rude et défensive, où les gains s'amassent avec du courage qui lie les hommes à la mer ennemie. Dépaysé, le marin s'ennuie et retourne à l'océan, parce que la tranquillité quotidienne ne contente ni ses forces, ni son goût du danger. Et puis, en vérité, il y a l'empreinte mystérieuse du plus prodigieux des éléments qui a servi même les brutes inconscientes. Le lendemain, à l'atelier, petit Pierre se sentit là pour la première fois. Il travailla mollement, sans plaisanter, avec les compagnons. Un désir inquiet de savoir si Cucassé trouverait embarquement le possédait, et le soir, il descendit au port pour avoir des nouvelles. Le boiteux promenait sur la jetée sa triste face d'être difforme. Des filles le frôlaient en se moquant, et il riait. Aux apostrophes des hommes, il répliquait grossièrement, mais sans aigreur. Une odeur de salure et de rogue s'exhalait des charges de sardines emportées à grand bruit de sabots. Petit Pierre aperçut au lichon qu'il avait le pont du secours de ma vie à large volée de clair. Puis Cucassé passa, en compagnie du père Crozon, un petit vieux tout rasé au milieu d'un collier de barbe drue. Il parlait avec animation. « On veut point de moi, la sardine !» disait Cucassé en haussant les épaules. « Mais pour le homard, c'est point pareil. Eh ben, on va essayer, mon gars !» Petit Pierre soupira, et il regarda la mer douce, par-dessus la jetée, où séchaient les filets bleus, l'horizon fuyant des soirs de beau temps, les molles vaguettes qui chantaient sur le sable, les barques pensives, hochant à peine du mât, et le grand ciel blanc, où le soleil glissait en s'élargissant. Derrière lui, le tumulte de l'auberge croissait avec le crépuscule. Alors, il se détourna brusquement et s'en fut boire aussi, à la table où Crozon trinquait avec le boiteux pour sceller l'engagement.